Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens, il y a toutes sortes de choses qui sont très profondes et qui ne sont pas souvent analysées, comprises, parce qu'on va trop vite pour lire. Mais il le faut bien aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, effectivement, il était dans une prison, avec des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, et un homme à chaque chaîne. Un homme à chaque chaîne, et à la porte, encore quatre hommes. Ça ne rigolait pas, hein ? Ça ne rigolait pas. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous étiez adressée. Vocari, ça veut dire être appelé, hein, vocation. Adressé par qui ? Ben, par la prédication. La prédication de Paul et d'autres qui ont apporté l'évangile. À ce moment-là, ils ont été appelés. Ils ont accepté d'être appelés aussi. Matière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Vous voyez ici, nous avons déjà des traits de caractère propres à Jésus. Propre à Jésus. Parce que l'être humain, il est orgueilleux, vaniteux, susceptible et revanchard. Tandis qu'ici, en toute humilité et douceur, avec patience, ce sont des caractéristiques même de Jésus, vous supportant les uns les autres avec charité. Caractéristiques extrêmes de Jésus, du Fils de Dieu, qui est venu sur terre, qui a travaillé comme menuisier, comme un charpentier, qui a vécu avec les autres, et qui a témoigné de cet esprit-là, de cette façon d'être, et qui a témoigné d'une nature sans péché aux autres, à tous les hommes, et à son Père des cieux. Et il a appris à... Il a vu sans doute des gens qui commandaient du travail à son papa et qui ne payaient pas, ou qui renaclaient, qui rouspétaient, qui voulaient trouver quelque chose pour ne pas payer. Il a fallu témoigner de cet amour, de ce pardon, hein. Et dans toute la vie de Jésus, c'est comme ça. Regardez bien la patience qu'il a fallu avec des apôtres qui, tout compte fait, ont fait tellement de choses, et pour finir, se sauvent tous et l'abandonnent. Il a été recherché. Quelle grande humilité. Et Judas, il l'a gardé avec lui jusqu'au bout. Si Judas ne s'était pas pendu, je suis certain que Jésus allait le rechercher. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Charité, c'est, il y a deux mots, bien sûr, dans le texte en grec, c'est agapé, c'est un don de Dieu, c'est l'amour même de Dieu qui agit en moi pour les autres. Hein? Et puis philéo, philéine, c'est moi qui choisis d'aimer, c'est moi qui choisis de prendre ce chemin-là, qui aime bien ce chemin-là et qui le met en pratique. C'est une adhésion du cœur. Une prédilection de la personne. Vous efforçant de conserver, donc vous voyez, la responsabilité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc entre les croyants, entre les chrétiens, qui ont été pardonnés de leurs péchés, qui ont demandé pardon pour leurs péchés à Jésus, et qui ont accepté ce pardon, donné à la croix, il faut accepter de vivre dans un autre esprit. Et c'est l'esprit qui est cité ici, au verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Le seul esprit qui soit valable, c'est celui de Jésus. Il ne faut pas aller chercher autre part. Donc, moi j'ai vu des films sur des églises pentecôtistes et autres aux États-Unis dernièrement. Je n'en revenais pas de voir la désinvolture avec laquelle les prédicateurs agissent. En faisant tomber des centaines de personnes, etc. C'est satanique. C'est diabolique. Il n'y a rien à voir avec l'évangile, avec ça. Rien. Jésus ne l'a jamais fait. Et pratiquement, il y a une douceur, une humilité dans le Seigneur Jésus et un esprit de corps à l'entour de ses disciples. Il priait pour eux, il sortirait dans la montagne. Il les aimait, il prenait patience avec eux. Et le corps de Christ doit être comme ça. Corps, l'église de Christ doit être comme ça. C'est le même esprit de Jésus dans les disciples. C'est ça qui fait le corps. comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Espérance ici en français a un sens un petit peu usé, raboté. Il faudrait mettre certitude, une seule certitude par votre vocation. La certitude par votre vocation, par l'appel que Jésus a fait dans mon cœur, c'est « Tu es un pécheur, tu ne peux pas rester comme ça. Tu es un pécheur, tu es séparé de moi. Moi, j'aimerais bien d'aller dans ta vie et que nous soyons unis, que tu sois sauvé, que tu sois dans ma vie, que tu sois, tu es la vie que j'ai, que tu es l'esprit que j'ai, que tu ne sois plus dans ton orgueil, ta vanité. » Et tu te crois bon, mais tu ne l'es pas. Tu es un pécheur. Tu calcules tout. Tu fais ton petit royaume et ta petite foi à ta manière. Tu dois être conduit dans la foi par moi. Tu ne peux pas conduire ta foi par toi-même. Tu ne peux pas conduire ton corps, ta maison, tes biens, ton âme, tes sentiments par toi-même. Tu n'y arriveras jamais. Ça ira toujours en enfer. Le prince de l'air, Satan, te rattrapera toujours pour te conduire autre part qu'avec moi. Tu dois vivre avec moi. Est-ce que tu renonces? Veux-tu perdre ta vie? Alors, tu seras sauvé. Si tu veux conserver cette vie que tu as tout perdu. Voilà la certitude qui est donnée par l'appel de Jésus. Il y a un seul Seigneur, il y a donc un seul maître de l'âme capable de la mettre dans la vie, dans la mettre dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice. Un seul maître de vie, bon, saint, miséricordieux, mais tout puissant pour changer mon âme, mon cœur, et pour me donner la vie éternelle. Et complètement agréable au Père des cieux. Ce Seigneur Jésus est complètement agréable au Père des cieux. Si j'accepte Jésus, je suis agréable à mon Père des cieux. Et vous voyez ici dans ce texte, une seule fois. Une seule fois. Il n'y en a qu'une de fois. Pas celle que je fabrique, que j'arrange, que j'ai reçue de tel pasteur ou de telle église, dans tel livre. Ou que j'arrange à ma sauce, une seule fois, Éphésiens chapitre 2, verset 8, celle qui vient de Dieu, qu'il me donne. Une foi qui me soude à Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Afin que nul ne se glorifie, c'est un don de Dieu. C'est une foi venue d'en haut. À un moment donné, je dois céder. Et je reçois un amour pour Jésus. C'est ça ma foi. Un amour que je ne pourrai jamais effacer. Une soudure dans mon cœur. Je suis scellé à Jésus. Cette foi, Dieu a dit que c'était le seul chemin pour être sauvé. Romains chapitre 1 verset 16. Le juste vit par la foi. Le juste c'est quoi? Le juste c'est celui qui est déclaré juste par Jésus. Tu viens avec moi, tu acceptes, tu abandonnes ta nature pécheresse. Tu veux que je te conduise dans ta vie? Je suis ton maître et ton Seigneur. Je suis mort pour la croix, oui, pour toi. Vraiment? Alors tu vas mourir tous les jours à ton péché. Je serai ton Seigneur. Il faudra que tu m'obéisses. Alors, une seule foi peut être en toi, celle de la croix où tu meurs tous les jours. Je suis mort sur la croix pour toi, et toi tu vas mourir tous les jours à ton orgueil, à ta vanité, à tes peurs, à tes intérêts, à tout le reste, à tes impuretés. À tes folies, à ton orgueil, à ta vengeance, à tes râleries, à tes animosités. Alors, c'est la seule foi qui est la vie. C'est la seule foi qui est une vraie vie. Ce n'est pas une foi religieuse. Ce n'est pas une foi à ma façon. Vous voyez dans Apocalypse au chapitre 2... 1, 2 et 3, vous voyez cette église. Mais les amis, l'église d'Éphèse était une des immenses églises de l'époque romaine, à la fin du 1er siècle. avec énormément de choses éblouissantes qui marchaient bien. Et pourtant, repens-toi d'où tu es tombé, tu as abandonné ton premier amour. Si tu n'as pas l'amour de Jésus, tu n'es pas uni à Jésus et tu ne lui obéis pas. Tu fais ton bidule à toi, ton bastringue religieux à toi. Et tu mets de la sauce perlimpinpin, du ketchup Jésus. Et ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Repends-toi d'où tu es tombé, sinon j'oserai le chandelier de sa place. Effectivement, l'islam est là. Tout ce qui est bâti de travers aujourd'hui laissera place à l'islam. Comme toute la Syrie, l'Égypte, l'Algérie, tout est passé à l'islam. Parce que Dieu l'a permis. La seule foi qui sauve, c'est la foi où j'appartiens entièrement au Seigneur Jésus. C'est un amour, c'est une relation la foi. C'est un don de moi Jésus. Romains chapitre 5 verset 5. L'Esprit Saint a répandu dans mon cœur l'amour pour Dieu. L'Esprit Saint est la source de l'amour pour moi, pour Dieu, pour Jésus. Et cet amour doit être comme une centrale atomique. Quand je mets la main dans un réacteur nucléaire, je suis irradié. La main, elle est irradiée pour toujours. Si je prends un morceau de minerai de fer et je le mets dans un haut fourneau, il va passer à 1200 degrés. Il va sortir d'un côté de la pierre et de l'autre côté de la fonte. C'est fini. Le morceau de métal qui est là ne peut pas redevenir une pierre avec du métal dedans. Avec Jésus, il y a un moment donné où il y a une étape de ma vie où Dieu l'a décidé. Je ne dois plus être le même. Je ne dois plus être le même. Je n'en ai pas l'autorisation. Parce que je ne peux pas ressembler à Adam et Ève, qui sont esclaves de Satan. Je ne peux pas ressembler à tous ceux qui descendent d'Adam et Ève, qui sont esclaves du péché. Je dois devenir un enfant de la liberté, un enfant de Dieu. Et quelles sont les caractéristiques de l'enfant de la liberté? C'est qu'il aime Dieu plus que lui-même. C'est qu'il aime plus l'amour, la vérité, la justice, le don de soi, que son jeu. La foi à un visage, c'est Jésus. Et regardez bien, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Quel est le baptême qui concernait les chrétiens? Quand vous prenez Marc chapitre 10, vous avez l'explication tout de suite. Enfin, vous avez la parole de Jésus. L'explication, il faut vraiment l'assistance du Saint-Esprit. Hein. Parce qu'on peut lire 200 fois un texte sans avoir l'explication. Alors, dans Marc chapitre 10, verset 36 à 39, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Voilà. Alors là, ça c'est la question piège. Imaginez que Jésus rentre dans la pièce et qu'il demande à chacun « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ah, ça y est. Je ne veux pas même la poser ici. Je ne veux même pas la poser. Ah non. Mais imaginez-vous que Jésus là rentre. Ça serait aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il rentre et vous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il arrive un jour. Hein? Vous ne connaissez pas l'heure. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Marc chapitre 10, verset 36. « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Je suis souvent dévoré par des passions, par des choses, mais je sais qu'elles sont toutes mauvaises. Elles sont toutes mauvaises. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris depuis longtemps. Mais elles reviennent toujours à la charge pour me torturer, pour me ramener à ma vieille nature. Qu'est-ce que je fais? Je prends une couverture, deux rangées là, je me couche là. Une demi-heure, une heure, deux heures. Et je crie au secours, Seigneur, que toute cette torture de l'âme s'en aille. Par le nom de Jésus, Seigneur, me débarrasse-moi de ça. Ça vient de Satan. Ça vient d'Adam et Ève. Seigneur, je veux que la place, Là, quand je sors d'ici, la place sonne net pour toi. Au secours, Seigneur, nettoie-moi, purifie-moi. Et plus on vieillit, plus il y a d'attaques. Plus on vieillit, plus il y a d'attaques. Plus on a besoin du Seigneur. Plus on a besoin du sang de Jésus pour être purifié. Parce que plus on vieillit, plus on aime le péché. On sait ce qu'on a raté avant, qu'on aurait bien voulu, hein, purer, si on ne veut plus, etc. Alors on se fait des films. On appelle ça les fantasmes. Ça, c'est les coups de téléphone de Satan, les fantasmes. Les psychologues pensent que c'est normal qu'on en ait. C'est pour ça qu'on crée des tas de films. Pour les nourrir. Il y a des revues, regardez, chez monsieur le docteur à l'hôpital, regardez les revues. Et tous ceux-là, ils sont complètement cinglés. Si vous les regardez, regardez comment ils finissent dans leur vie. En plus, ils vont en enfer. Alors, il faut un nettoyage complet. Il faut un curetage complet. Ah oui. Alors, regardez bien l'orgueil qu'il y a là-dedans. Ils sont avec Jésus. Ils ont vu la sainteté de Jésus. Ils ont vu sa douceur. Ils ont vu sa grandeur. Son humilité. C'est une grandeur, mais à l'envers des autres. Eh bien, accorde-nous leur dit-il, d'être assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Pan ! Un an et demi. Ici, 3 ans. Président du monde. Oui, Jésus, tu seras président du monde. Moi à ta gauche, moi à ta droite. Hein ? Allez, on va être tous leur beauté derrière et on va diriger le bazar. Hein ? Bon, eh bien, les amis, c'est ça. C'est ça, l'être humain. Et Jésus est là. Mais avant d'arriver sur terre, il le savait déjà. Hein ? Il l'avait déjà vu. Hein ? Il l'avait vu tout le temps, parce qu'il voit tout. Il a déjà vu Caïn et Abel se disputer, ça finit par un meurtre. Il a déjà vu Adam et Ève se disputer tout de suite après le péché. Alors voilà, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il est gentil. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous demandez quelque chose dont vous ne savez pas où ça vous mène. Vous ne savez pas que ça vous conduit en enfer et que c'est votre échec total. Mais moi, je suis là pour vous sauver de votre aveuglement, de votre stupidité meurtrière. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Donc Jésus subit la coupe, boit la coupe, c'est la colère de Dieu sur le monde des pécheurs. Deuxième chose, il est baptisé du baptême, d'un baptême, c'est-à-dire à la croix. Il endosse sur son dos toute l'accusation, toutes les fautes, et il est condamné pour les responsables que nous sommes. Nous ne sommes pas irresponsables. Les pécheurs que nous sommes. Alors Jésus a porté tous les péchés sur la croix et il a subi la colère de Dieu. Et la deuxième chose, il a porté cette accusation. Alors il s'est fait pécher pour nous. Voilà, toi tu es pécheur. Aux yeux des anges, aux yeux de Dieu, il se présente comme le pécheur. Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, tous les hommes vont en enfer. L'immense amour de Jésus pour nous, à la croix, est plus qu'évident. S'il ne le fait pas, nous sommes tous en enfer. Nous allons faire des belles cathédrales, des beaux cirques, de toutes les sortes, synagogues, mosquées, tout le reste, flon-flon, avec des orques, avec des violons, avec des pianos, rien ne nous mène au ciel. Aucun beau cantique ne nous mènera au ciel. Seul le sang de Jésus à la croix. Et parce que Jésus a subi le châtiment et qu'il a porté volontairement le fardeau de l'accusation, des ordonnances de la loi qui nous accuse, qui nous condamne. Nous n'avons pas respecté la loi divine. Alors, Jésus a été baptisé, c'est-à-dire enseveli dans la mort, et l'Esprit Saint s'est manifesté par la grâce que Dieu lui a faite, Dieu l'a fait par le Saint-Esprit ressortir du tombeau. Et le Saint-Esprit est celui qui authentifie le Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la grandeur de Jésus. C'est pour ça que dans le Jourdain, quand Jésus est dans l'eau, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Et la colombe est au-dessus de lui. La colombe est au-dessus de lui. Mais sur le mont de la transfiguration, au mont Hermon, la même chose. Il est dans la gloire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et donc, quand le Saint-Esprit le ressuscite, et l'apporte à Marie de Magdala, l'apporte aux disciples, l'apporte au mont Tabor, l'apporte aux hommes encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit est celui qui nous montre que le Fils de Dieu, Jésus, est la vie. Nous, nous sommes la mort. Nous sommes dans la mort. Et nous avons besoin de la vie. Nous savons tous. Nous le savons tous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Donc, obéissance à Dieu, justice et sanctification et rédemption. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Donc, quand nous sommes... Vous vous rappelez que tout à l'heure, on était dans Éphésiens, au chapitre 4. On ne va pas y retourner tout de suite. Quand nous sommes à ce point-là convaincus que Jésus est l'amour même pour nous, l'amour même pour nous, c'est le Rédempteur, c'est celui qui me sauve, c'est celui qui me donne la vie, celui qui me fait échapper au drame du péché et à l'issue du péché qui est l'enfer. Qu'est-ce que j'attends pour réellement me donner entièrement à la vie, à Jésus? Que ton oui soit oui, à Jésus. Que ton non soit non aux œuvres des ténèbres, à Satan, au péché, au mensonge, religieux. Tout ce qui est entre les deux vient du malin. Jésus le dit dans Matthieu 5. Alors, regardons dans Proverbe. 1000 ans avant. Proverbe, chapitre 1. 1000 ans avant. Ce n'est qu'un exemple de l'Ancien Testament. Il y en a plein. Plein. Vous savez bien que dans un culte, on ne peut pas tout faire. On amorce. On montre la voie, on donne des éléments pour, et après, quand on rentre chez soi, on doit lire la Bible, on doit lire, on doit prier. On doit se mettre en face du Seigneur Jésus. Chez soi. On ne peut pas demander à un culte et un ou à celui qui préside de tout faire. Non, on ne peut pas se démettre. Proverbe, chapitre 1. Proverbe, chapitre 1. Cherche un verset que j'ai pourtant médité souvent. C'est dans Proverbes chapitre 1, mais bon, vous savez, 1, 20 à 33. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Donc, partout, Dieu peut parler au cœur de celui qui réfléchit. Partout, où qu'il est, dans le secret de son cœur. Elle crie à l'entrée des lieux, bruyant, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Moi, je me rappelais à une époque, j'allais dans les discothèques pour repêcher des jeunes qui se droguaient. Et c'est arrivé, hein, que j'ai été amené à en aider à s'en sortir. J'en avais pris plusieurs chez moi qui vivaient en communauté avec moi quand j'étais célibataire, encore par la suite. Dans les lieux bruyants, Dieu y est autant que dans les autres, les lieux silencieux, hein. C'est pas, il ne faut pas de l'orgue, ou pour que Dieu soit là. Hein. Ça, c'est des idées conseillées. Moi, dans un train, quand il y a plein de gens, je regarde les gens avec Dieu. Quand je suis au champ, tout seul, à quatre pattes, en train de nettoyer les légumes, je dis « Seigneur, d'ici une heure, est-ce qu'il viendra quelqu'un ?» Et que j'ai le sentiment, en paix, qu'il va arriver quelqu'un, je travaille avec Dieu. Et tout d'un coup, j'entends une petite voix, un pas qui arrive, je ne relève même pas la tête, j'attends qu'il ouvre sa bouche. Dans la semaine, quelqu'un, ça ne vous fait pas peur quand quelqu'un arrive comme ça, tout près de vous, derrière vous? Mais non. Ça fait trois quarts d'heure que je prie pour vous, je savais que vous alliez arriver. Je vous avais vu là-bas, à l'autre bout. J'avais envie de rentrer, je travaillais déjà depuis le matin. Mais je me dis, Seigneur, au cas où cette personne a besoin de toi, il faut que je reste là. Alors, qu'est-ce que vous me devez faire? Vous devez, chers amis, parce que quelqu'un vient de faire un petit signe, vous devez vous mettre à disposition du Seigneur dans toutes les circonstances. Vous devez être à disposition dans toutes les situations. Vous devez être à disposition du Seigneur pour qu'il puisse donner la vie à quelqu'un. Et vous êtes responsable de la mort ou de la vie de ceux qui vous entourent. Pour le peu que vous puissiez faire, si vous ne le faites pas, vous êtes responsable, vous contribuez à le mener en enfer. Si vous avez fait le peu que vous pouviez faire, un autre plus tard va faire autre chose. Et tout cela va s'ajouter comme un puzzle, et la personne va accepter Jésus. Mais le peu, si vous ne l'avez pas fait, et que d'autres chrétiens font la même chose, il y a les petits peu vont faire un gros zéro. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui est fidèle à une petite chose est digne d'en recevoir des plus grandes. Donc, je savais que cette personne m'avait parlé il y a un an, dans le champ, et puis, elle parle de bêtises, à tout bout de champ, il n'y a pas de problème. Mais il y a un an, elle ne m'avait pas parlé de bêtises, j'avais prié avec elle. À ce moment-là, elle est revenue, on a pu de nouveau prier. Et qu'est-ce qui s'était passé pendant un an? C'est que son mari, qui ne voulait pas accepter de se faire guérir, soigner, avait accepté de se faire soigner, qu'il avait changé de caractère, qu'elle qui pensait au divorce n'y pensait plus, qu'elle lisait sa Bible tous les jours et qu'elle avait trouvé la paix. Elle vient de dire merci, mais je dis, vous dites merci à Dieu ou à moi? Alors je lui dis, on va dire merci à Dieu tout de suite. Et j'ai donné un calendrier à bonne semence, et alors elle m'a embrassé. Pas de problème, ça n'a pas été plus loin, pas cassé pas. Mais c'était embrasser comme un enfant embrasse quelqu'un qui lui a fait montrer qu'il aimait. Hein? Et clairement, que le Seigneur continue son chemin avec. Chaque petit peu que vous pouvez faire, vous devez le faire, si vous aimez le Seigneur. En quoi voit-on le Saint-Esprit chez un chrétien? Qu'il fait le petit peu de tous les jours, les petits pas de tous les jours que Dieu a fait, comme Jésus de Nazareth, en Galilée pendant 35 ans sur la terre. Les petits peu de tous les jours de Jésus nous montrent la pédagogie de Dieu pour amener des âmes à la vie éternelle, au salut. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, donc dans les stades de football, dans les lieux, etc. Hein? On peut aller là comme évangéliste. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles, au milieu d'un champ, au milieu de la forêt. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science, donc la connaissance de Dieu? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Vous voyez là, 1000 ans avant Jésus, Jésus, Dieu, dit, je répandrai mon esprit sur vous. Je vous ferai connaître mes paroles. Est-ce que ça n'a pas été la même chose dans Luc chapitre 24, hein, vous voyez Vincent ce qu'il a lu, quand Jésus reprend ses disciples après sa résurrection, il leur ouvrit l'esprit, il prit l'écriture, les psaumes, les prophètes, les rois, etc. Et il leur annonça, il leur ouvrit l'intelligence. C'est pas ça? C'est la promesse. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'ai dit en ma main que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous Vous n'aimez pas mes réprimandes? C'est pas beaucoup comme ça souvent dans les églises? Dans nos vies? Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. J'ai fait ce que j'ai pu pour un homme, hein. Ce que j'ai pu, pas toujours. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Et puis il a logé ici au-dessus. Et puis un jour ça a tourné mal. C'est un homme qui faisait les baguettes chinoises, le tarot chinois, etc. Qui était très calé. Et qui pour finir me rendait service, tapait souvent des papiers pour moi et tout ça. Et pratiquement, je dis à un moment donné, je ne peux pas aller plus loin avec toi. Je vais devoir arrêter parce que tu ne te convertis pas. Tu ne mets pas les choses en ordre avec toi. Je suis très patient, c'est comme ça un jour. Le couperet tombe. Et il était interloqué. Mais vous êtes intolérant, vous êtes intolérant. Vous voyez bien, je suis serviable, que je vous rends service. Ah non, c'est à Dieu que tu dois rendre service. Il faut être à Dieu. Pour rendre service à Dieu, tu dois être en ordre avec lui. Moi, j'étais patient pour que tu te prépares à rencontrer Dieu et que tu le serves. Et tu ne veux pas. Alors, de ce jour-là, quand je travaillais dehors, il revenait plein. Et puis, il m'insultait. Ça a changé. Ça a changé la donne. Pas grave, je le savais. Et puis un jour, au milieu de la nuit, à 2-3 heures du matin, il est sorti, il a fait le tour, il est arrivé à la porte, effrayé. C'est un homme qui s'appelle en littérature un nègre. C'est quelqu'un qui faisait des livres, mais qui ne les signait pas. Et ça paraissait dans les échoppes, c'est des livres qui se vendent bien, c'est des livres de cul. Hein? Alors, je m'excuse du mot, mais c'est comme ça.
C'est
cul. C-U-L. D'impureté. Et pratiquement, comme il avait beaucoup d'esprit impur, ça allait bien, il avait très facile d'écrire. Il y a beaucoup d'ailleurs de metteurs en scène et d'écrivains comme ça maintenant. Je laisse conduire par le prince de l'air. Il gagne des sous. Pour perdre les autres et eux-mêmes. Alors pratiquement, ce qui se passe, il arrive et puis je dis installe-toi, je sors du lit, hein, il était ravagé, était. Je dis, j'étais dans mon lit, je ne pouvais pas dormir et Satan est venu au-dessus de moi. Jean, je suis effrayé, effrayé, je n'ose plus rentrer chez moi, je n'ose plus. Je dis, tu l'as toujours aimé, ton Satan, il fallait bien que tu le voyais une fois.
Tu m'as dit ça.
Jean, au secours. Mais bien sûr, moi je suis assez dur. Au moment où il faut être dur, je suis dur. Tu n'as pas aimé Dieu. Il est venu au culte ici, là. Il était assis là. 3 ans. C'est pas parce qu'on est assis au culte qu'on est sauvé, hein, les amis. Ne me laissez pas croire ça, je ne croirai jamais ça. Alors, je dis, tu n'as jamais aimé Dieu. Tu as toujours servi l'autre, il faut bien. Il cherche à te montrer qu'il est ton maître, maintenant. Il est sympa. Je suis effrayé, je n'ose plus retourner dormir. Je dis, va dormir. Retourne chez toi, je vais prier maintenant, tu dormiras toute la nuit. Tant que je veillerai, je lirai ma Bible pour t'aider, tu pourras dormir. Quand j'irai dormir et j'arrête de prier, tu verras. Et pendant un mois, ça a été comme ça, j'ai prié jusqu'à 3 heures du matin, il dormait. À 3 heures du matin, j'allais dormir. Les manifestations de Satan étaient sur lui. Après, il ne s'est pas converti. Il ne s'est pas converti, les amis. Parce qu'il n'avait pas l'amour de la vérité. C'est pas parce que Satan est tout puissant. Il n'avait pas l'amour de la vérité. Tout ce qu'il avait entendu au culte à Montmédy et ici, il n'avait pas en lui l'amour de la vérité. Il avait l'amour de soi. Méfiez-vous. Méfiez-vous, ce texte. Méfiez-vous, quand la terreur...
Il est mort comme un misérable.
Alors, il a déménagé parce qu'il ne supportait plus d'être ici. Bien sûr, j'ai prié où il parte. Chacun a sa technique, moi c'est comme ça. Quand on a refusé réellement, je prie. Qu'on s'en aille. Et le Seigneur le fait d'une manière ou l'autre, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de grandes bagarres et de grandes déclarations. C'est... Et pratiquement, il a logé ici à Aide, et puis un jour qu'il était... rond, il tombe sur le bord de la route, sur le trottoir, et il passe la tête sur la route. Il y a une voiture qui est passée, il a cogné la tête, et il a eu des hémorragies cérébrales, il est mort. Il a été enterré dans une fosse commune à Saint-Marc au cimetière, avec des ouvriers communaux, etc. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de nom et tout. C'est un trou de 2-3 mètres, et il y en a comme ça, il y a un coin pour tous ceux-là. Est-ce que Dieu a voulu ça? Et quelques mois plus tard, j'ai eu quelqu'un qui est venu de Bruxelles, c'était un chrétien évangélique, qui l'avait reçu, qui l'avait gardé pendant un an ou deux chez lui. Il a dit, j'ai tout fait pour qu'il connaisse le Seigneur. J'ai dit, bien, on est ma femme, chrétien ici, nous aussi. Il ne faut pas vous reprocher quelque chose, frère. Mais est-ce que vous pouvez me montrer où il est enterré?
Il n'y avait que nous à l'enterrement.
Cet homme était rempli d'amour du Seigneur. Il est venu une fois pour savoir où notre Alain était enterré comme un chien. Et il en enfer. Alors, je reprends ce texte. C'est clairement en enfer. Ne joue pas là-dessus. C'est clairement en enfer. C'était clairement, j'ai parlé avec lui. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Vous voyez que Dieu, à un moment donné, c'est fini. Le jugement tombe. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, c'est ça. Angoisse et tribulation sur l'âme du pécheur. Romains, chapitre 2. Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï la science. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimantes. Ils se nourriront du fruit de leur voile, se rassasiront de leurs propres conseils. La résistance des stupides les tue, la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Attention de prendre le livre des proverbes pour un livre de bêtes proverbes comme ça. De temps en temps, un proverbe, ça fait du bien. Lisez ce chapitre numéro 1. Il est à la base de beaucoup de choses. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand Jésus voit arriver ces deux gaillards, Jean et Jacques, dans un autre texte, c'est la mère, pour leur donner l'hyper-promotion, premier ministre, etc., tout ce que vous voulez, du roi des rois, vous ne savez pas ce que vous demandez. Moi, je vais aller à la mort pour ton péché, pour ton égoïsme, ton ambition, ton cœur crapuleux, là. Je vais aller à la mort. Tu sais ça? Je ne comprends pas. Un jour, par la lumière du Saint-Esprit, il faut que je le comprenne. Oui, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Alors, le Saint-Esprit, reprenons Éphésiens chapitre 4, le Saint-Esprit est donné pour faire un seul corps, une seule église, une église de ceux qui ont reconnu leur péché, qui ont demandé pardon pour leur péché, qui ont compris que Jésus a porté mon iniquité, mon péché à la croix. Un seul corps pour comprendre que Jésus a donné la vie par son Saint-Esprit à tous ceux qui croient en lui. Et que Jésus veut être mon Seigneur, mon Maître, pas seulement mon Sauveur. Alors, c'est un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, le baptême, ce qui s'est passé à la croix. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Dans le corps de Christ, dans cette nouvelle humanité, de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, de ceux qui ont renoncé au péché, qui sont crucifiés tous les jours dans leur nature pécheresse. Dieu est parmi tous et en tous. Ça, c'est la vraie Église. Mais regardez bien dans l'Apocalypse, il y a cette Église, il n'y en a qu'une. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Églises, que ça ne tourne, ce n'est pas juste. Ça porte le nom d'Église, c'est tout. Il y en a une que le Seigneur est dedans, c'est le Philadelphie. Il y en a une deuxième, la Odyssée. Il toque à la porte, il dit à la porte, il veut rentrer. Il demande à l'église s'il peut rentrer. Et les cinq autres, alors. Lisez. Donc, nous avons à considérer que le Saint-Esprit est l'Esprit même du Seigneur Jésus. qui m'attache à Jésus, qui m'attache à sa vérité. L'Esprit Saint m'attache à la vérité. Si j'ai l'amour de la vérité, ce n'est pas suffisant que pour vivre dans la vérité. Je suis un pécheur, alors il me faut que l'aide de Dieu Tout-Puissant, il me conduit dans ma faiblesse pour accomplir en moi ce qui m'est impossible de faire. Vous voyez ? Et c'est ça l'œuvre suprême du Saint-Esprit. Alors, on va prendre quelques versets sur, sur la vie spirituelle. Je vous ai parlé l'autre jour où était le moteur de Jésus, c'est le Saint-Esprit. J'ai parlé l'autre jour, dimanche passé, de la source. Où est la source du Saint-Esprit ? C'est Dieu le Père qui donne le Saint-Esprit à quelqu'un, à nous, à l'enfant pardonné. Alors, comment le recevoir ? Prenons Matthieu chapitre 7. Bien sûr, ça a déjà été dit, mais soyons un peu ordonnés. Et parfois, il faut répéter souvent la même chose pour qu'on comprenne, hein, un petit peu. C'est la même chose pour moi, vous savez. Combien de fois je vais relire ? Combien de fois je vais relire, Seigneur ? Je dois prêcher. Ça fait 5 fois déjà que j'ai lu le texte. Seigneur, aide-moi, m'en sors plus. 757. Plus je le lis, plus je patauge. Ah oui, parce que je suis attaqué. Ou je suis attaqué. Peut-être par des esprits de quelqu'un d'autre qui va arriver dans la salle de culte et qui s'oppose à ce que je vais dire. Je suis attaqué. Alors, j'ai besoin de l'aide de Dieu aussi, comme vous. Peut-être d'une autre manière, mais... Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Il ne faut pas imposer les mains avec précipitation, a dit Paul. Il ne faut pas dire de quelqu'un qu'il est chrétien en 4e vitesse, parce qu'il a levé la main à une grande fête chrétienne. Il s'est avancé, il a confessé Jésus. J'ai été transformé un bâtiment d'église à Paris, et plusieurs fois, avec des amis de l'église, camionnette, remorque, tout le matériel. Et on travaillait. Une fois au soir, j'étais en train de prendre des mesures, tout le monde dormait déjà, mais il fallait que ça soit clair dans ma tête pour le lendemain. Et puis, il y a quelqu'un qui passe à 6h du matin pour dire qu'est-ce qu'il faut comme matériaux et tout ça. Quand il apportait la nourriture, et pratiquement, à 8h, il fallait que tout soit là, quand on démarrait. Alors, pratiquement, Et puis il y avait un autre pasteur, mon brave Bob, qui arrive. Et il a dit, j'ai 130, 160 personnes dans l'église. La plupart ont été baptisés, ils ont confessé Jésus. Il se met à pleurer. Mais je ne peux pas dire qu'ils sont sauvés. Je n'oserais plus le dire. Alors, je le prends Bob dans mes bras. Ben, Bob, tu sais bien qu'est-ce que dit Jésus. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Le reste, c'est de l'iniquité. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là devant Jésus, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas parlé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Il y en a beaucoup qui veulent s'amuser à chasser des démons, surtout dans certaines églises. N'avons-nous, ils ne sont peut-être pas là où on pense. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, je pensais à ça, il pensait à la même chose. Il dit, je peux dire une chose, c'est que ceux qui font la volonté de Dieu ne sont pas nombreux dans l'Église. Je dis, console-toi, c'est partout la même chose. Et je ne suis pas venu ici parce que c'est une super Église et que c'est tous des super chrétiens. Je viens à cause du Seigneur ici. Et toi, tu es pasteur, tu as fondé cette église-là à cause du Seigneur. Il y a des brebis et des bouquets, du blé livré. Tu n'y feras rien d'autre. C'est le Seigneur qui va te réveiller. Ne pleure plus. Tu as fait ton travail, fidèle serviteur. Je suis vieux. Je vais devoir quitter. Est-ce que tu ne veux pas venir ici pour me succéder? Mais tu sais bien que dans mon coin aussi, il faut que je reste là. C'est la même chose dans mon coin que ici. Il faut aussi que la parole soit annoncée. Il faut aussi qu'il y ait des brebis et des boucs. Du blé livré. Je te demande pardon, bon, je ne peux pas. En tout cas, personnellement, je ne peux pas. Si quelqu'un d'autre était là pour prendre ma place directement, oui. Mais vous voyez à quel point les échanges peuvent être profonds, mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir l'amour de la vérité en soi. À chacun de nous de choisir son camp. Personne d'autre qui le fera à ma place. Et Dieu voit ça. Dieu voit ça. Chapitre 7 de Matthieu, verset 7. Et c'est pour ça que ces versets-là sont importants. Demandez et l'on vous donnera. Demandez l'amour de la vérité. Demandez l'amour de Jésus. Demandez l'amour du vrai. Chassez le faux. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Oui, vous deviendrez quelqu'un d'autre. Vous deviendrez vraiment enfant de Dieu. Mais pas à bas prix. Pas à bas prix. Au prix de ma vie qui doit être balayée pour que la vie de Jésus s'installe en moi. Pas à bas prix. Pas une demi-grâce en moi ou un quart de grâce. Toute la grâce, tout Jésus en moi. Paul le dit dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Donc, c'est comme l'église de Laodicée. Car quiconque demande reçoit. Donc, il n'y a pas d'exclusion pour Jésus. Sauf le malhonnête, le menteur. Celui qui cherche trouve et l'on offre à celui qui frappe. Donc, Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui, dans de bonnes dispositions. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, alors là qu'il faut accepter tous qu'on est mis au même rang, on est méchant, on est des pécheurs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, ou un ami, etc., si on n'a pas d'enfant, quelqu'un qu'on apprécie, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Alors, ce texte-là, dans Matthieu, bien sûr, il trouve son accomplissement un petit peu autre part. Comment le recevoir? Eh bien, dans Luc chapitre 11, verset 9. Et sur le Saint-Esprit, on parlera encore plusieurs fois, mais ce qu'il y a, je parlerai encore quelques fois avec l'aide de la Bible, bien sûr, toujours, mais ce qu'il y a, je pense que les temps sont urgents maintenant. Les temps sont urgents pour l'humanité. L'humanité se conduit elle-même à sa perte. Et les chrétiens ne doivent pas prendre ce bateau du grand Titanic. Est-ce que les chrétiens s'en rendent compte? C'est ça, je n'ai pas l'impression, souvent. Ou s'ils ont l'impression, ils ne prennent pas leur décision. C'est que des impressions, des tremblements, des angoisses, on ne prend pas de décision. On n'est pas résolu. Et il faut choisir son camp. Luc chapitre 11, verset 9. Le même texte. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il en vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on offre à celui qui frappe. Donc on a bien compris, hein, que c'est ni pour des cacahuètes, ni pour une voiture, ni pour une maison, ni pour un champ, etc. Ni pour une nouvelle paire de souliers. C'est pour la vie éternelle ce que je dois demander. Le don du Saint-Esprit. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner la même chose à vos enfants, combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il ce que vous demandez dans Matthieu et Marc? Mais Luc, ici, le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais c'est pour ça qu'il faut éviter les précipitations dans les réunions d'évangélisation. L'autre là, il voit tout le monde qui avance, ben il y va. Mais est-ce qu'il l'a vraiment demandé? Est-ce qu'il se rend compte de ce qui est, dans quoi il doit, ce que ça va lui coûter? Est-ce qu'il se rend compte de ce que ça va lui coûter? que toute sa vie appartient à Jésus-Christ, qui va devoir porter sa croix. Regardez Matthieu chapitre 16. Le Saint-Esprit, c'est pas un sachet de cacahuètes. Ah, c'était bon. Ah, ça me fait plaisir. Ah, le Saint-Esprit. Donc, chapitre 16 de Matthieu, verset 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, donc c'est clair, il faut avoir demandé pardon pour ses péchés et avoir demandé le Saint-Esprit, hein, et l'avoir reçu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, bon, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. De quelle croix il s'agit? Il faut réinventer un bout de bois et se crucifier, se flageller, etc. Faire comme Sainte Thérèse de Lisieux, etc. Hein, le masochisme de certains chrétiens chez les orthodoxes et les catholiques, pour mériter son salut? Non. Fatima, marcher sur les cailloux pendant à genoux, hein? Bon, non, c'est pas ça. Chez les bouddhistes, chez les chamans, il y a toutes sortes de, comme ça, de trucs. C'est pas ça. Chez les musulmans, les cinq prières tous les jours, le ramadan, se faire souffrir, souffrir. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de ça pour être sauvé. Non. Il faut accepter la croix de Jésus. C'est ma croix. Parce que mon péché est collé sur le dos de Jésus. C'est à cause de mon péché qu'il est là crucifié, Jésus. Et heureusement, Dieu a approuvé son geste, il l'a ressuscité et il me donne le Saint-Esprit. Alors, la croix, la source de bénédiction, le don du Saint-Esprit. Et ce qu'il y a, si le don du Saint-Esprit est possible, c'est à cause du don de la croix. C'est pas parce qu'un pasteur prêche bien que le Saint-Esprit va être donné à toute une assemblée. C'est parce que Jésus à la croix est mort pour le péché des personnes, et c'est Dieu en la personne de son fils Jésus qui confère le Saint-Esprit. Donc le pasteur n'a pas à jouer le malin, à poser les mains partout et faire tomber des gens. Si vous êtes sauvés, vous aurez le don des langues. Si vous êtes sauvés, vous vous roulerez par terre. Jésus n'a jamais fait ça. Jamais. Les inventions modernes du diable pour pourrir l'église avec un autre esprit. Alors, regardez bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, donc celle du Golgotha, la seule, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Seigneur, à la croix, quand tu es mort, j'ai perdu toute ma vie là. Ma vie d'Adam et Ève, ma vie de péché, ma vie de perdition, j'accepte, elle est là, je l'ai perdue. Elle l'est clouée, elle l'est anéantie. J'accepte que ce jour-là, j'étais dans ton programme des sauvés. J'accepte de rentrer dans ton peuple. Tu m'as appelé, je réponds oui. Et donc, en signe d'obéissance, je vais obéir à ta parole et à ton Saint-Esprit. Et que ton Saint-Esprit fasse en moi les œuvres, Seigneur, que tu as préparées d'avance. Alors, vous voyez bien, dans Luc 11, 9, 13, que tout est clair. Prenons la première épître de Pierre, chapitre 1. Pour les vacances, parce que c'est les vacances pour l'Institut, donc à partir de maintenant, il faudra prier pour que notre ami ait un travail, et plus vite possible, hein, qu'il y ait de l'argent pour continuer. Prions aussi que parmi nous, il y en ait, qu'il y ait de l'argent pour l'aider. Prions aussi que, en toute confiance, il puisse continuer son chemin pour servir le Seigneur. Il ne soit pas tourmenté avec cette affaire d'argent, ni Noémie. Prions que Dieu fasse avec ces deux-là qui font l'Institut quelque chose où le Saint-Esprit leur dira ce qu'il faut faire, pas nous. Pas nous, c'est pas nous qui leur dirons ce qu'il faut faire. On peut peut-être les conseiller, c'est différent. Et merci Seigneur que dans notre assemblée, qui n'est pas nombreuse, il y en a qui veulent te servir. Merci Seigneur. Continue à abonder et à transformer des personnes pour qu'elles veulent te servir. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Ton Église est là pour te servir, Seigneur. Fais lever des servantes et des serviteurs Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, donc parlé, au nom de Dieu, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc l'Esprit Saint les poussait à annoncer la venue de Jésus. Regardez Michée, par exemple, au chapitre 6, verset 1. Le chef d'Israël, le nouveau roi, va naître à Bethléem. Bon, il dit ça. Et puis, il s'en va, et pendant des années, il se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dû dire ça, hein? Pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé de dire ça, et de l'écrire partout, et puis de l'écrire, hein? Et Jésus, il ne le connaissait pas vraiment, mais l'Esprit Saint l'a poussé. Ésaïe 53, Ésaïe est prêt au temple, et puis il rentre chez lui, tout d'un coup, pan, le serviteur souffrant, Ésaïe 53, il était défiguré, il était maltraité, il en... endurci son visage sous les coups et les crachats. Hein? Et puis après, il est mort sur la croix, il a porté toutes nos iniquités. Pour les coupables, il est en train d'écrire, il est en train de le dire au temple, il s'en va, et quand il rentre, sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de raconter ça, hein? Et puis son fils dit, papa, hein, ça t'arrive souvent ça? T'avais pris du cannabis? Alors à un moment donné, c'est quand même écrit, c'est quand même resté écrit. C'est dans les rouleaux de Qumran, et ça s'est accompli. Donc, voilà les prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ est en eux, le Saint-Esprit donc. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Vous avez vu ? Voilà ce que dit Pierre. Pour résumer, un siècle de prophétie, ou 16 siècles, c'est comme on veut. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées, maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Donc, les apôtres ont prêché par le Saint-Esprit, la mort et la résurrection de Jésus, c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle, hein? Envoyé du ciel. Tiens, envoyé du ciel. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, toute la gloire céleste, tous les anges et les archanges admirent l'œuvre de Christ à la croix et de le don du Saint-Esprit. Le ciel admire le don du Saint-Esprit. Chaque fois qu'un homme ou une femme né de nouveau, c'est une admiration, c'est une glorification de Dieu, une exultation des anges auprès de Dieu. Parce que voilà, un nouveau enfant du royaume est né. Un nouvel enfant. Et bien sûr, regardez bien ce qui est mis. Saignez les reins de votre entendement. Donc, il va falloir changer les pensées qu'on a dans le tirlifon. Hein? Soyez sobres. Tiens, adieu les passions. Et ayez une entière espérance, certitude, dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Je me rappelle bien avec cet homme qui trafiquait les armes, quand il a accepté Jésus. Je dis, écoute, j'aimerais bien que toi tu sois certain que tu es converti, et moi aussi, et Dieu aussi. Si tu as vraiment prié sincèrement que c'était le jour, alors, le Saint-Esprit est venu dans ta vie. Je te demande une chose, la maîtresse qui est là dans le corridor, c'est fini. Tu la nourris, tu ne vas plus la toucher, tu ne vas plus la voir. Tu la nourris pendant 3 mois, c'est tout. Tu lui payes son appartement, mais tu retournes avec ta femme et ta fille qui t'attendent depuis 17 ans. Il m'a dit, d'accord. Tous les trafics d'armes et tout ça, que tu t'es jamais fait prendre, les trafics de voitures, les sociétés immobilières fausses et tout ça que tu as fait, ça vient d'où? Il sort sa carte. J'ai eu ça dans une secte. Je demande à Satan de changer la pensée des gens, il signe. Je fais ce que je veux, j'ai un casier judiciaire vierge. Tu me la donnes, je peux la brûler au nom de Jésus? Je vais la brûler. Puis après, je lui prends Zachée, le texte de Zachée. Ou Zachée qui était immensément riche, que personne n'aimait, et qui me dit, Jésus dit de lui, c'est un nouveau fils d'Abraham. Alors Zachée dit, je vais rendre 4 fois ce que j'ai volé à chacun, 4 fois. Et tout le reste, je le donne aux pauvres. Je lui lis le texte. Maintenant, je vais te dire ce qu'il te reste à faire. Ton argent pourri, s'il en reste quelque part, il doit partir. Tu ne peux pas t'en servir. Et aux heures, il me téléphone, le médecin. Même si j'ai dit que j'étais guéri et tout ça, que j'ai plus rien, le médecin m'a dit que j'aurais la pension d'handicapé à vie jusqu'à la fin de ma vie pour les infarctus. Il faisait son 3e infarctus ce jour-là. Et pratiquement, si vous voulez, il a renoncé à toutes les mauvaises choses sur 1 heure de temps qu'on a discuté. Et j'ai vu qu'il renonçait aux convoitises qu'il avait autrefois et qu'il devenait un enfant obéissant. Et qu'il avait appris par cette discussion où je l'éclairais ce qu'était bien le bien et le mal. Donc vous étiez dans l'ignorance, il ne l'était plus. Il est responsable de lui-même. Êtes-vous dans l'ignorance par rapport à certaines choses que vous faites ? Suis-je dans l'ignorance par rapport à des choses que je ne devrais pas faire et que je fais ? Alors que je demande au pasteur ou à d'autres chrétiens qui m'instruisent, qui m'éclairent. Mais si je maintiens l'ignorance parce que ça m'arrange, j'en suis coupable. Ça s'appelle de l'iniquité. Chapitre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Ça vient de Lévitique. L'appel à la sainteté, je suis saint, soyez saint. Voilà la mission du chrétien, voilà le vrai don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour la sainteté. C'est pas pour faire de l'esbrouf en public. La sainteté, c'est souvent à genoux, dans le silence, dans la souffrance, dans l'intercession, dans le service. Le service où on ne fait rien pour avoir merci. Le service où on ne fait rien pour avoir en retour. Simplement pour être dans le chemin saint de Jésus. Voilà. Regardons dans le chapitre 1, au verset 22. Dans ce chapitre 1, verset 22, Pierre est clair. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Donc, là, ici, je vous ai dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais comme le péché revient à notre charge, à la charge, parce qu'on l'aime, hein, le péché. Il faut choisir de le combattre. Il faut choisir de prier. Choisir de lire sa Bible. Choisir de le refuser. Au nom de Jésus. Ça, c'est une responsabilité. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. Ça, c'est la part que nous est demandée. Du combat spirituel. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pour avoir un amour, où trouve-t-on en vérité ? En Jésus. Dans sa parole. Jean 17, 17, ma parole est la vérité, ma parole vous sanctifiera. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Qu'est-ce qu'a dit Jésus dans Jean 13, 33, 35 ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, on vous reconnaîtra à ce signe. Ça veut dire.
Ça veut dire que Dieu aime ardemment.
Comme un feu. Dans le lit, il ne bouge plus. Il est venu ici. Il est venu à l'église. Avez-vous le feu pour aller lui le voir et prier avec lui ? Il fait chaud. Elle l'étouffe. Elle est cardiaque. Il étouffe avec la chaleur. Il est cardiaque, il ne peut pas venir. Avez-vous le feu pour le visiter ? Aimez-vous ardemment les uns les autres. De tout votre cœur. Jésus a dit, je vomis les tièdes. Et ici, Pierre dit, il faut aimer ardemment. Il faut faire ronfler le feu de l'amour. N'allez pas me dire qu'il y a un autre évangile que ça. Hein. C'est pas la peine, on arrête tout de suite alors. Hein. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole de Jésus m'enseigne tous les jours à vivre comme Dieu le veut. Et elle est incorruptible. Elle me donne la vie, elle ne me donne pas la mort. Et Puisque vous êtes régénéré, c'est-à-dire, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, transformé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a transformé, il m'a donné une autre manière de vivre et de penser. Et voilà. Verset 25, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc on voit bien que, si vous prenez Galates au chapitre 2, que le Saint-Esprit n'est pas donné comme ça, à la sauvette, en quatrième vitesse. Vas-y, Nénès, on passe à la télévision, il y a 2-3 000 personnes, on fait de la musique, et le brouhaha, tout le bazar. Allez, hop. Allez, le Saint-Esprit va tomber sur vous. Badaboum. 300 à terre. Après, on fait passer le panier. Vite votre argent, pendant qu'ils sont encore à moitié. Alors, comment le Saint-Esprit est-il donné ? Galates. Ah oui, Galates chapitre 3. Il faut choisir son camp. Hein. Il est temps, hein, parce que le Seigneur n'est pas loin. Galates chapitre 3. Ô Galates, dépourvu de sens, regardez comme ça bombarde avec Paul. Hein ? Mais pourquoi que ça ne bombarderait pas aujourd'hui ? Ô Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné ? Vous imaginez ? Comme hypnotisé. Méfiez-vous des prédicateurs qui sont des médiums, hein ? Médium, c'est pas prophète, hein ? Et beaucoup confondent. Au Galates dépourvu de sens.
Sur Internet, même dans les vidéos et tout ça.
Mais nous sommes à la fin des temps. Satan redouble pour égarer ceux qui sont fragiles dans la foi ou qui n'ont pas réellement. Ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Au Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné ? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc lui, pour Paul, c'est Jésus crucifié pour mes péchés et ressuscité. Point à la ligne. Dans 1 Corinthiens, c'est ça. Je ne veux savoir que ça parmi vous. Oui, ils parlaient tous de dons, de langues, etc. Et puis ils se tapaient dessus, ils ne s'aimaient pas. Et ils faisaient des clans. Alors, et ils se conduisaient mal. Ils arrivaient plein à Sainte-Seine. Mochikui, à la Sainte-Seine. Imaginez. Alors, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Le reste, je ne veux que ça. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ? Donc en appliquant les 10 commandements de Moïse, ou par la prédication de la foi. Est-ce que c'est par la prédication de la foi que vous avez reçu l'Esprit Saint ? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, vous avez perdu la raison ? Après avoir commencé par l'Esprit Saint, voulez-vous maintenant revenir à la chair ? Retourner aux œuvres de la chair, les commandements, les lois, les règles, etc. Finir par la chair et finir en enfer. Avez-vous tant souffert en vain ? Oui, parce qu'il y avait des oppositions, si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit Saint et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ? Parce qu'il prêche les 10 commandements, vous les appliquez, vous faites le sabbat, vous êtes sauvés. Il y en avait qui parlent comme ça. Il y en a encore.
C'est parfait.
Eh bien, pratiquement.
La loi de Moïse, c'est tellement vaste.
Oui. Ben, il y a eu 622 règles en tout. Mais regardez, ou par la prédication de la foi. Donc la prédication de la foi, c'est l'annonce de Jésus. Tel que je vous l'ai fait tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, ce qui s'est passé à Golgotha. Et la résurrection, selon les Écritures. Ça, la prédication de la foi, est la seule source du don du Saint-Esprit. C'est ça que Paul vient de dire. Ni pasteur ni église ne donnent le Saint-Esprit. La prédication de la foi. Et au verset 11, un peu plus loin, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et la foi, je vous l'ai expliqué aussi tout à l'heure. C'est enregistré, s'il faut le réentendre. Donc, pratiquement, les amis, les apôtres n'ont pas prêché des choses à côté de la plaque. C'est les successeurs des apôtres, après, durant les siècles, qui se proclament des apôtres, au même titre que les vrais apôtres, et qui racontent parfois des bêtises. Et Jean, l'apôtre Jean l'a dit dans son épître, il sort de parmi vous, de parmi nous, des antéchrists. Et Paul l'a dit dans la deuxième aux Corinthiens. Attention, il n'est pas étonnant que Satan envoie des anges de ce ministre déguisé en ange de lumière. À la fin du premier siècle, alors aujourd'hui, ce n'est pas plus ni moins. Dans tout cela, c'est, il faut bien se dire, le Saint-Esprit est un trésor immense. C'est Dieu. Dieu vient dans ma vie pour me conduire dans la sainteté, pour que je lui appartienne complètement, pour que je prête attention à Jésus, avec amour, avec un complet amour, un amour pur. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Le Saint-Esprit vient à moi pour que j'aime Jésus et sa parole, et que je le mette en pratique. Alors je peux dire, je suis un enfant de Dieu. Alors je peux dire, je suis né de nouveau. Mais il ne faut pas avoir trop d'opinion de soi-même. Il faut laisser à la parole et au Saint-Esprit l'autorité et pas rentrer dans l'orgueil et dire « Je suis un super chrétien maintenant. » Il n'y a pas de super chrétien en dehors de Jésus-Christ. Tout le reste, c'est des pécheurs. Il n'y a rien de Jésus-Christ.
Sauvé par
grâce, bien entendu. Seigneur, merci pour le don de ton Saint-Esprit sur tous les peuples, sur toutes les nations, sur les hommes, les femmes, sur les gens de toutes les couleurs, sur les petits, les vieux, les gros, les mecs, les malades, les bien portants. Seigneur, merci parce que tu aimes tous les hommes, tu veux les sauver tous, et tous ne seront pas sauvés. Seigneur, nous te prions pour que beaucoup d'hommes et de femmes, et nous-mêmes, ayons l'amour de la vérité en nous. Car tu as dit, celui qui fait la vérité, vient à la lumière. Au nom de Jésus, amen.
Mm-hmm. Amen.